C'est l'heure de Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzes et diffusée sur Radio Albitzes et Erdotan. Thierry Colombier sera l'invité de la librairie des enfants ce vendredi 19 janvier à partir de 17h30 à Albi. Il sera question de criminalité environnementale et de romans sous forme de polar. Thierry Colombier est spécialiste du grand banditisme et de la criminalité organisée. Docteur en économie, Thierry Colombier est aussi un écrivain, réalisateur et scénariste français. En 2021, il s'est lancé dans la littérature jeunesse, ados, jeunes adultes en créant la série Polar Vert aux éditions Milan. Comme dans une série TV, la série se décline en saison bouclée, soit deux tomes comprenant environ 50 chapitres épisodes. On a joint Thierry Colombier au téléphone. Bonjour Thierry Colombier.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené aux questions écologiques, puisque votre parcours ne vous y préparait pas forcément?
Alors, eh bien, en réalité, si, il m'y préparait, puisque moi, j'ai rencontré la criminalité environnementale que l'on connaît, par exemple, par le trafic de bois en Amazonie et tout ce qui relève de la déforestation à travers les cultures de coca. Puisque dans les années 90, quelques mois après la mort de Pablo Escobar, je me suis rendu à plusieurs reprises en Colombie. Mon terrain d'étude à l'époque était justement la cocaïne, c'est-à-dire le trafic de cocaïne. Et je me suis rendu dans des régions où il y avait des productions de cultures de coca. Et à ce titre, avant justement que ces cultures soient installées, eh bien j'ai vu tout le drame, tout l'impact environnemental de la façon dont justement cette culture devait être installée, et en premier lieu le trafic d'espèces protégées, le trafic de bois avant de fabriquer la cocaïne. Donc le problème en réalité, c'est que en France on travaille très peu sur ce sujet, donc je n'ai pas eu en tant que chercheur à l'époque la possibilité de travailler sur l'impact environnemental du trafic de stupéfiants. Mais croyez-moi, c'est un sujet qui est absolument énorme, et il est aujourd'hui important de pouvoir en parler, notamment à travers la littérature.
Alors globalement, vos recherches et enquêtes peuvent s'avérer dangereuses. Quelles sont vos méthodes de travail?
Alors moi, c'est lorsque j'écris, et ça a été le cas pour Polar Vert, j'ai trois grandes parties. La première, c'est la documentation. Donc je lis tous les articles, les livres, les grands reportages sur les sujets sur lesquels je vais travailler. Une fois que j'ai fait cette recherche qui est assez longue et très chronophage, eh bien je vais sur le terrain. Donc ça, c'est la deuxième partie. Aller sur le terrain, ça veut dire faire du repérage visuel, faire des photos, des vidéos, et surtout rencontrer des personnes qui sont à même de pouvoir me faire une espèce de mise à jour de toutes les informations que j'ai recueillies essentiellement sur Internet ou dans des bibliothèques. Et ça, c'est un moment très important, puisque c'est un moment où je vais aller sur le terrain, donc, lorsqu'on va en Bretagne et qu'on est confronté au trafic de civelles dans les marais, par exemple, c'est forcément un atout supplémentaire lorsqu'on veut le retranscrire après en littérature, dans le roman, de la même façon que je l'ai fait pour l'ours. Ce sont les deux premières parties. Ça prend beaucoup de temps, parce que je travaille sur une saison, donc sur deux tomes. Et la troisième partie, c'est un peu le casse-tête chinois, c'est-à-dire trouver les personnages, les intrigues principales. Et je travaille comme au cinéma, donc dans un premier temps, je fais ce qu'on appelle un séquencier, donc un ensemble de séquences, en commençant toujours par la fin, puisque là, on est dans une enquête, donc il faut savoir tout de suite comment va se finir et comment tout va se terminer. Et donc, en réalité, je vais repartir depuis le début avec la scène d'ouverture. Et puis après, j'aurai tout le loisir de pouvoir écrire et me plonger véritablement dans l'écriture et tout ce qui m'amène après dans la magie de l'écriture, justement, à découvrir éventuellement d'autres pistes, parce que ça, c'est un peu le bonus de l'écriture. Lorsqu'on a peut-être prévu en théorie beaucoup de choses, mais dans la pratique, il arrive que le clavier ou le stylo nous mène ailleurs.
Alors, quels sont les grands enjeux de ces travaux et leur révélation au grand public et notamment aux jeunes?
Alors, l'idée, c'est vraiment de travailler sur une forme de sensibilisation des crimes contre la nature. Jusqu'à présent, lorsqu'on parle de polar, on a souvent la découverte d'un corps, c'est toujours un humain, hein, c'est jamais une espèce protégée ou un chêne ou un grand chêne qui est protégé aussi, enfin un arbre, etc. et tout. Donc l'idée, c'est de travailler sur les crimes contre la nature. Donc la question qui se pose ici, c'est vraiment à chaque fois de savoir d'abord quels sont ces crimes contre la nature ou ces délits contre la nature. Donc là, il y a un énorme déficit de la part du grand public sur le sujet, alors que c'est quelque chose qui est absolument de notre vie quotidienne. Ça commence par les déchets, ça peut aussi concerner la pollution de l'eau, de l'air, du sol, etc. Donc en fait, quand on se plonge vraiment dans la criminalité environnementale, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est autour de nous en permanence. Et ça, ce n'est pas encore pris en considération ni par les pouvoirs publics, et encore moins par le grand public, puisque lui-même n'a pas toutes les possibilités de comprendre les enjeux qui sont autour de tout cela. Et il faut bien comprendre aussi que, à travers la criminalité environnementale, on a aussi des problématiques de développement durable, de dérèglement climatique, et de tout ce qui concerne après les codes, donc le code de procédure pénale, etc., le code de l'environnement. Et en cela, je crois que ce que j'ai réussi à faire, et c'est ce qui est à peu près révélé par les lecteurs, c'est que du coup, on arrive à prendre conscience véritablement de ces enjeux-là à travers l'histoire de cette héroïne, Claire Lee, qui a 17 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les polars verts sont lus par 3 générations, ça je suis très fier, c'est-à-dire les ados, leurs parents et aussi leurs grands-parents, puisqu'ils découvrent véritablement l'ampleur des dégâts sur ces sujets, même si effectivement il y a quand même heureusement quelques auteurs ou quelques journalistes qui ont travaillé sur le sujet.
Alors justement, vous parlez du côté le code de l'environnement, etc. Est-ce que vous trouvez que en France notamment, est-ce que la justice est armée pour faire face à ces délits?
Alors il faut juste rappeler que le code de l'environnement en France ne date que depuis 2000, pardon. Donc ça ne fait que 23 ans qu'on peut appliquer le code de l'environnement, c'est-à-dire retenir des charges contre des personnes qui, par exemple, déverseraient des déchets sauvages près de chez vous ou dans une forêt ou ailleurs. Donc on est déjà sur un sujet qui est très récent dans l'histoire de la loi, en tout cas de la police ou de la justice. Et donc, comme vous le savez, on a quand même une lourdeur administrative et une lenteur administrative qui n'arrange rien. Et petit à petit, pas à pas, on arrive quand même avec de nombreuses lois qui ont été appliquées, notamment la loi climat récemment, on arrive en réalité à faire en sorte que ces enjeux soient un peu mieux considérés par les procureurs justement au niveau de la justice. Mais néanmoins, on a un autre problème, c'est celui de la formation. C'est-à-dire que si demain vous allez à la gendarmerie parce que on a déversé des déchets très polluants dans votre jardin, aujourd'hui, normalement, en brigade territoriale, on est capable de qualifier la plainte. Il y a encore 5-6 ans, c'est pas le cas. Donc, en réalité, il y a, même si on a avancé un petit peu, et que cette plainte va pouvoir remonter au niveau du procureur et que, éventuellement, il va y avoir une enquête, eh bien, ça pose le problème de la formation. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, de cette criminalité environnementale, de faire en sorte que, justement, ces délits et ces crimes soient punis. Mais pour cela, il faut aussi beaucoup de moyens. Et les moyens commencent par les moyens humains, à savoir la formation. Évidemment, après, il y a les moyens matériels qui sont très importants pour mener des enquêtes au niveau local ou international. Il faut juste rappeler pour des enquêtes liées à la criminalité environnementale, on a permis aux officiers de police judiciaire l'utilisation des écoutes téléphoniques qu'en 2019. Ça veut dire que c'est même pas hier, quoi. C'était la seconde d'avant. Donc, on est en progrès, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et surtout, je pense que lorsque l'opinion publique, en tout cas le grand public, aura conscience de ces enjeux, eh bien, ça sera encore plus fort, puisqu'il y aura une espèce de contre-pouvoir, ou en tout cas, un levier qui sera proposé à toutes les familles pour essayer de régler enfin toutes ces problématiques.
Alors Thierry Colombier, je vous propose d'écouter une archive sonore et puis on revient avec vous pour parler notamment de Polar Vert.
J'étais en vacances, c'était ma semaine de vacances de juillet. J'avais amené mon cheval de région parisienne et puis je faisais des balades dans la région et l'une d'entre elles m'a amené sur la plage.
J'étais en ramassage d'algues sur la baie à environ 200 mètres du lieu où c'est arrivé. Et puis, tout en faisant mon boulot, je l'avais dans la vue quelque part. Il faisait des exercices avec son cheval sur la plage. Il avait l'air de s'éclater avec son cheval, quoi. Et puis, à un moment donné, je l'ai vu se diriger vers la rivière à pied avec son cheval derrière lui, quoi. Et puis, peut-être quoi, 2-3 minutes après, je me retourne et puis je ne le voyais plus, quoi. Et je me dis, je vais aller voir ça quand même, quoi.
Je m'approche d'un tout petit cours d'eau, vraiment un ruisseau qui s'appelle le Rosquat, hein, qui traverse, qui débouche sur la grève et qui la traverse. Et puis en approchant de son lit, à quelques petits mètres, tout d'un coup je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup, mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Donc il se projette dans la vasière, moi avec, puisque j'étais à côté de lui. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire, c'est-à-dire que je le vois arrêter de respirer, planter la tête dans la vase, et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres de venir nous aider, et à partir de là, je garantis que c'était un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance.
En 2009, je prends mon service aux urgences à l'hôpital et j'apprends que la veille avait été véhiculé aux urgences Monsieur Petit, donc qui avait été victime d'un accident à Saint-Michel-en-Grève. Et donc, il avait été apporté par le SMUR la veille. Et l'hypothèse, c'était le fait qu'il ait inhalé de l'eau, on ne savait pas trop, inhalé après avoir fait une convulsion. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu et qui n'a... n'avait aucune raison de faire une convulsion. Et surtout, le cheval qu'il tenait par la bride est décédé en moins d'une minute devant ses yeux, quoi.
Alors voilà, donc ça c'est un extrait d'une enquête radiophonique d'Inès Leroux, extrait de sa première saison du journal breton, un journal un peu intime, une enquête qui nous plonge dans l'univers de l'agroalimentaire breton au milieu des algues vertes, des poulaillers et des abattoirs dans une région qui est la première région agroalimentaire de France. Donc on vient d'entendre cet extrait d'enquête radiophonique. Pour vous, Thierry Colombier, comment envisagez-vous les différents supports de vos travaux, alors recherche écrite, documentaire vidéo ou bande dessinée, et même question sur les styles, et puis aussi peut-être une réaction sur cet extrait.
Alors, les extraits commencent justement par un monsieur qui dit qu'il est en vacances, etc. Il se trouve que moi aussi, à ce moment-là, en 2009, en juillet 2009, je suis en vacances à côté de l'accident qui est révélé ici, qui est relaté, à savoir donc que ce cheval... eh bien va décéder sur la plage et que le cavalier en question va être mis dans le coma artificiel après. Et je suis moi fils de paysan, je connais tous les enjeux qui sont liés justement à l'agroalimentaire. En tout cas, je les ai vécus puisque j'avais, comme on dit chez nous, pas très loin d'Albi, le cul sur le tracteur très jeune. Et à l'époque d'ailleurs, on n'avait aucune protection lorsqu'on épandait de l'engrais ou des produits chimiques, etc. Et ça m'avait interpellé puisque à l'occasion de cet accident, il faut savoir que le Premier ministre avait été dépêché sur la plage avec un aéropage de ministres et ils avaient dit aux Français « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, grosso modo. » Et lorsque vous avez un Premier ministre qui dit ce type d'assertion, en principe, ça veut dire qu'on ne s'est pas tout à fait occupé du problème. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est certainement un très bon sujet de roman à aborder. Vous l'avez compris, parce que ça m'intéresse au premier chef, mais aussi parce que ça relève, là, en tout cas, d'une possible, comment dire, conséquence de cette production, justement, de viande. Hein. Parce que je rappelle quand même qu'en Bretagne, on produit un cochon sur deux français, un poulet sur deux français et un veau sur trois. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez un déversement de lisier qui est absolument considérable partout, dans les rivières, etc., qui va provoquer justement ce qu'on appelle les marées vertes. Donc moi, je suis toujours intéressé de loin un peu au sujet, me disant, ben, si un jour j'ai la possibilité d'écrire un roman, je le ferai. Et l'occasion m'a été donnée justement de le faire à travers Polar Vert, puisque l'idée, c'était aussi de faire en sorte que l'héroïne soit une profane, c'est-à-dire une personne qui ne connaît absolument rien, qui se fout royalement d'ailleurs des atteintes à l'environnement, qui ne connaît ni les fleurs, ni les plantes, etc., alors qu'elle vit dans un endroit absolument merveilleux, mais qui, en perdant son cheval, va être touchée de plein fouet au cœur, et qui donc va devoir se poser des questions. Est-ce que dans ces cas-là, lorsqu'on est concerné au premier chef, on reste sur son canapé à pleurer toute sa vie la mort de son cheval, ou on essaie de comprendre ce qui s'est passé? Et c'est exactement cette démarche que je vais donner à faire, en tout cas à mon héroïne. Et il se trouve que, évidemment, pour le roman et le polar, qui va devenir encore plus vert, encore plus écologique en cela, c'est que je vais glisser une arche principale, une intrigue principale, qui est le trafic de civelles. Et ce n'est pas rien, parce que le trafic de civelles, aujourd'hui, en valeur, est le plus gros trafic au monde d'espèces protégées. C'est 10 fois en valeur le trafic d'ivoire. Ça, c'est quelque chose que personne ne sait, et pourtant, ça se passe en France, ça se passe près de chez nous, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir, dans un même lieu géographique, mener de front, à la fois une intrigue très costaud, parce que les trafics du civelle, c'est quand même des professionnels, c'est pas rien de pouvoir mettre son nez dans les affaires des contrebandiers, de la mafia chinoise, etc. Et dans le même temps, d'avoir aussi cette forme d'enquête un peu plus passive concernant les algues vertes. Et je crois que le lecteur, à la fin, il comprend effectivement eh bien que là, on est face à un problème de santé publique, de dommages environnementaux colossaux, à savoir par le déversement justement de ce lisier, ce qu'on appelle en réalité les fuites d'azote agricole, qui concerne 90% du problème des marées vertes en Bretagne. Et c'est un problème qui n'est pas du tout réglé aujourd'hui. Et on voit, grâce d'ailleurs au travail qui a été mené et à l'enquête d'Inès Leroux, que ça touche véritablement un grand public, parce que tout le monde s'intéresse évidemment à la question de la santé et de savoir justement pourquoi les pouvoirs publics mettent autant de temps à réagir. Après, on le sait, il y a beaucoup d'intérêts, notamment géopolitique sur le poulet. On pourrait faire la géopolitique du poulet, ce serait très intéressant. Voilà, mais non, mais c'est toujours un arbitrage qui est fait à un moment donné entre les dommages qui sont causés à l'environnement, qui sont très peu pris en compte, et puis évidemment tout ce qui relève de la vente à l'exportation et de la façon dont on va pouvoir équilibrer le budget en France.
Alors, question Thierry Colombier, quelle part de fiction mettez-vous dans Polar Vert par rapport aux faits réels?
Alors, moi, j'ai évidemment inventé une histoire avec des personnages, avec Clervy, son frère qui va être dans le coma, hein, parce que c'est lui qui est sur le cheval, donc on va découvrir sur la plage inanimée. Puis après, son petit Lucas, son copain, son amoureux, elle a 17 ans, hein, Clervy est follement amoureuse de Lucas. Bah, il se trouve que Lucas, lui, est le digne héritier d'un gros marieur breton, et qui s'adonne évidemment au trafic de civelles. Moi j'ai inventé une histoire, mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que on est là dans la littérature du réel et que tout est plausible. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui n'a été inventé, notamment dans les pratiques et les modalités de trafic qui sont organisées autour du trafic de civelles. Ou de tout ce qui relèverait des marées vertes ou en tout cas de cette thématique-là. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez fort. Alors c'est pas facile à documenter, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, ça demande aussi beaucoup de confiance de la part des personnes que j'ai rencontrées à l'occasion des enquêtes, etc. Mais néanmoins, moi j'avais vraiment envie d'être dans cette littérature du réel et de proposer quelque chose qui soit véritablement très proche de la réalité. Et il faut savoir que lorsqu'on travaille aussi sur des problématiques de criminalité organisée, de mafia, de grand banditisme, comme je l'ai fait pendant longtemps, il faut savoir que la réalité dépasse la fiction. Et c'est là aussi où le grand public a beaucoup à apprendre. On parle beaucoup de généralité, etc. On pourrait en parler autour du trafic de stupéfiants. Mais lorsqu'on se plonge véritablement dans une forme de précision très clinique des trafics, on s'aperçoit que souvent les trafiquants sont obligés d'avoir une imagination absolument débordante pour échapper à la répression et pour évidemment blanchir les gains de leur trafic, parce que sans blanchiment, en fait, il n'y a pas de crime organisé. Voilà, donc j'ai vraiment mis l'accent sur cette plausibilité et cette faire un compte rendu proche de la réalité.
Alors, Polar Vert est donc une bande dessinée en série, mais elle est aussi un support pour envisager des ateliers pédagogiques autour des thématiques de l'écologie dans les écoles et collèges, c'est ça ?
Oui, alors Polar Vert est une série de romans écologiques. Hein. Ça sera peut-être bientôt une BD, il y aura peut-être une adaptation. Mais c'est pour l'instant un roman qui est destiné aux plus de 14 ans, donc à ce qu'on appelle les adolescents ou les jeunes adultes. Et effectivement, ce qui est arrivé très vite en septembre 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans, c'est que lorsque le premier tome, Les algues vertes, est apparu, eh bien, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont emparés du bouquin parce que ça leur permettait de pouvoir travailler justement sur des questions écologiques ou de tout ce qui concerne après les programmes de 5e, 4e ou 3e sur la lecture, sur le français, les arts plastiques, etc. Et ça a été une surprise assez incroyable de voir et d'assister à la mise en place de projets pédagogiques partout en France. Je crois qu'à peu près on est à peu près à 60-70 projets pédagogiques aujourd'hui, ce qui est très rare en littérature lorsqu'un ouvrage paraît comme ça tout de suite. Donc ça veut dire quoi ? Bah, c'est pas parce que c'est Polar Vert ou que c'est moi qui l'ai écrit, c'est juste qu'il y a une très forte attente de la part des enseignants et aussi peut-être des adolescents sur des sujets sur lesquels ils sont confrontés aujourd'hui, ou en tout cas ils voudraient avoir des réponses et qui évidemment pèsent sur leur avenir. C'est ça qui à mon avis est très important. On l'a vu avec les marches pour le climat, on le voit aujourd'hui avec le phénomène d'éco-anxiété qui frappe les adolescents. Hein. Il faut savoir que les hôpitaux psychiatriques en France sont légèrement débordés par l'arrivée d'adolescents qui ne savent plus, qui sont absolument sidérés par l'effondrement possible de notre société. Donc tout ça interroge évidemment les enseignants qui ont là la possibilité, en tout cas un outil, pour essayer de sensibiliser les élèves à tout ce qui relève de, comme je l'ai déjà dit, de la préservation de la biodiversité, du dérèglement climatique, etc. Parce que ce sont aussi des thèmes que j'ai mis dans les romans, etc. Parce que j'ai voulu aussi donner une version très contemporaine.
Mais Thierry Colombier, merci. Bon, je rappelle qu'on peut vous retrouver et pas mal d'infos sur vos travaux sur le site thierrycolombier.fr. On peut aussi retrouver les tomes de Polar Vert sur le site de votre éditeur www.editionmilan.com. Et je rappelle donc que les Albigeois et Albigeoises peuvent vous retrouver ce vendredi 19 janvier à partir de 17h30 à Albi, à la librairie des enfants. C'est au 13 rue Pérolière pour une lecture suivie d'une conférence autour donc de la criminalité environnementale. Merci beaucoup Thierry Colombier.
Oui, merci à vous. Et je tiens à préciser que la conférence est quand même assez inédite, hein, parce que je suis le premier à faire des conférences sur la criminalité environnementale en France. Donc, il y a des gens qui veulent justement mieux comprendre les enjeux autour de ces problématiques. Ben, c'est l'occasion de venir. Et je rappelle que Polar Vert a vraiment aujourd'hui un énorme succès auprès de ce qu'on appelle des clubs de lecture famille. Donc, c'est absolument l'occasion de venir, puisque ça ne s'adresse pas, comme vous l'avez compris, qu'à des adolescents.
Merci encore, Thierry Colombier.
Merci à vous.
C'était Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzes et diffusée sur Radio Albitzes et Air d'Otan.